C'est parce que vraiment l'humanité est tombée est vraiment au fond du trou et au fond de la méchanceté, de l'incrédulité, des œuvres de destruction, de méchanceté. Il faut dire méchanceté. La méchanceté, il peut y avoir la mort, mais il peut y avoir la mort dans la douceur. Mais là, la méchanceté du diable, c'est de faire souffrir les gens dans toutes sortes d'épreuves. Ça, c'est sa méchanceté. Il manifeste cette méchanceté dans ses œuvres. Alors, nous lisons ici, donc, au verset 2 maintenant, car les hommes seront égoïstes. Donc, les hommes, c'est la race humaine. Hommes, femmes, enfants, vieillards, c'est une nature déchue. C'est cela depuis l'enfance. On voit se manifester cet esprit, c'est l'esprit du diable. Donc les hommes seront égoïstes. Égoïste, eh bien, c'est quelqu'un qui, en somme, ne pense qu'à lui-même. Vous notez quand même ce que qu'ils en disent là dans le dictionnaire. Qu'est-ce qu'ils disent? Égoïste, ils disent attachement excessif à soi-même. C'est ce qui produit l'égoïsme, c'est l'attachement de soi-même. On voit qu'on met tout ce qu'on regarde en rapport, c'est nous le centre, c'est nous, c'est un rapport avec nous, et ça c'est l'égoïsme. Fait tout rapporter à soi-même. Donc c'est ce qui est écrit, premièrement, la première chose, que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Pourquoi amis de l'argent? Parce qu'ils ne sont plus amis de Dieu. Ils sont plus amis du Créateur. L'argent, l'homme pense que s'il a beaucoup d'argent, bon, il peut faire ce qu'il veut. Alors, il est ami de l'argent, il cherche à avoir le plus d'argent possible parce qu'il veut pouvoir réaliser ses desseins à lui. Mais si nous sommes amis de Dieu, si nous aimons le royaume de Dieu, la justice de Dieu, ce que Dieu a créé, si on aime simplement les arbres, la verdure, je ne sais pas moi, les changements de temps même si il y a beaucoup de neige. Mais si nous aimons cette création de Dieu, on est amis de Dieu, et si nous aimons dans le domaine spirituel, si nous aimons Dieu, eh bien, lui, il a cette puissance qui peut créer. Pas l'argent avec de l'argent, c'est pas sûr que vous ayez toujours à manger avec de l'argent. Il y a des régions où ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas de pain. Il n'y a pas la nourriture, ils n'arrivent pas à avoir de nourriture. Ça ne veut rien dire. Mais Dieu a prouvé dans l'Écriture que dans le besoin, par exemple, c'est quand même frappant que c'est Élie qui a dû apprendre que chaque matin, il était nourri par des corbeaux. Oui. Et puis après, ça a continué avec la veuve. C'est qu'il n'y avait que une petite, il y avait juste de l'huile nécessaire. Il y avait 2 poignées de farine et de l'huile. Il y avait juste une goutte de farine, un peu de, non, une goutte d'huile, une goutte, un peu de farine pour faire du pain. Et puis, une fois qu'ils avaient fini ça, eh bien, mais le lendemain, il y avait de nouveau la farine et le pain. C'était Dieu qui créait. C'était pas comment il faut dire, le capitalisme, dans ce sens qu'on fait des grosses quantités pour être sûr qu'on va pas manquer un jour. Mais elle ne manquait pas. Tous les jours, quand Élie était seul, eh ben, il avait la visite des corbeaux. Et c'est écrit, il lui apportait pas seulement n'importe quoi, c'était pas n'importe quoi qu'ils lui apportaient, qu'ils auraient chapardé quelque part par hasard, ils auraient pu apporter, moi je n'ai pas de la nourriture pour les chiens. Non, mais ils lui apportaient chaque jour du pain et de la viande. Et je vous assure que ce n'était pas n'importe quelle viande, c'était certainement pas la viande de porc, puisque c'était défendu. C'était de la bonne viande. On ne sait pas où ils allaient chercher, mais ils étaient inspirés, ils étaient conduits. Et lui, il vivait. Il vivait. Et puis, la même chose avec la veuve. Ils ont vécu. Ils ont vécu ainsi pendant tant de temps. C'est pas l'argent qui peut faire cela, mais ils étaient amis. Je veux dire que c'était un croyant. Élie était un croyant. Il s'attendait à Dieu. Il marchait avec Dieu. Et la veuve de Sarepta, c'était aussi une femme croyante qui marchait avec Dieu, qui était secourue par Dieu. Vous voyez? Ainsi, c'est important. Mais après l'égoïsme, c'est amour de l'argent. C'est ce qui est écrit ici. Ils seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Qu'est-ce qu'il dit pour fanfarons? Fanfarons, vous savez ce que c'est qu'un fanfaron? Tout simplement, c'est quelqu'un qui se vante avec excès. C'est un vantard. C'est un vantard. Oh, il raconte ceci, il raconte cela. Et souvent, c'est du mensonge. Hein. Si c'est excès, ça veut dire que c'est pas de la vérité. C'est un vantard. C'est le troisième. Je ne veux pas les calculer. J'ai calculé à peu près une vingtaine de qualificatifs. Je ne pense pas que je pourrais parler sur tout. Mais déjà, les trois premiers, on voit bien. Il y a l'égoïsme, et puis il y a l'amour de l'argent au lieu de l'amour de Dieu, du Créateur. Parce que Dieu peut créer là où il n'y a rien du tout. Il peut créer quelque chose. Il crée bien, mais où est-ce qu'il créait cette farine dans la cruche et l'huile? Mais je ne sais pas. Mais c'était toujours là, dans la cruche, dans le moment le matin, quand il se levait, quand il voulait faire le petit déjeuner, eh bien, elle allait faire son pain. Et puis peut-être qu'à midi, elle avait de nouveau faim. Ils allaient faire son pain et il y avait de nouveau de la farine. Est-ce qu'ils avaient 3 fois par jour? Mais c'est possible. Pourquoi pas? Hein? C'était toujours dans la cruche. Mais quand ils avaient pris, il n'y avait plus rien. Ils mangeaient ce qu'ils avaient reçu et ils rendaient grâce à Dieu, ils louaient Dieu et ils disaient jusqu'à la prochaine. Hein? Et à la prochaine, eh bien, ils revenaient. Amen. Donc, la troisième chose, alors, c'est comme on a dit, le fanfaron. Le fanfaron. Ensuite, c'est le hautain. Un hautain, c'est celui qui regarde les autres depuis la hauteur, depuis sa hauteur, sans tellement méprisant pour les autres. Il dit rien du tout, lui, c'est quelqu'un. C'est que l'homme, il est. Il est hautain par l'égard, à moins que vous ayez de l'intérêt, que vous représentiez un intérêt pour lui. Alors là, il va s'occuper un petit peu de vous, hein. Mais autrement, on tâche de. Mais évidemment, si on a assez d'argent, on pense qu'on est plus grand que les autres, et puis on peut faire les hautains. Mais. C'est l'esprit que Satan il produit dans l'homme. Donc, un hautain, blasphémateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Blasphémateur. Mais, oui, on sait très bien que c'est un rapport avec Dieu. C'est vraiment employé. Une expression, tiens, je ne crois pas que j'ai trouvé qu'est-ce qu'il mettait pour blasphémateur. Non, je n'ai pas relevé ce qu'il disait là. Non. Mais blasphémateur, c'est un rapport avec la foi, c'est prendre un passage de la Bible, une parole de Dieu, et la tourner d'une manière charnelle. Moi, je me rappelle, j'avais quelqu'un, c'était mon chef, et je me rappelle, il se vantait, c'était un horticulteur, et puis, et alors, il faisait le malin avec les autres, lors d'une exposition, et puis il dit, moi, je suis dans, comment tiens, un passage de la Bible, il ne donne pas à la manière comment. Oh, mais ça m'avait vraiment outré, comme il avait tourné cette parole de la Bible qu'il avait prise pour l'appliquer à lui-même. Ne donne pas, il faut que je retrouve. Oui, c'est pas. Voilà la manière de tel et tel de donner. Voilà ma manière de donner, pas comme les hommes donnent. Pas comme les autres donnent, voyez-moi. Prends la parole de Dieu. Mais c'est un blasphème d'employer la parole de Dieu pour le tourner comme ça, pour des usages. J'ai blasphémé. Oui. Blasphémateur, et après, il dit rebelle à leurs parents. C'est pas, disons, c'est vrai que nous vivons maintenant, nous sommes dans cette atmosphère où on voit vraiment que les enfants sont rebelles à leurs parents, mais c'était pas autrefois comme ça. Je veux dire, il y a eu un temps où, quand l'écriture était écrite, les enfants n'étaient pas comme ça. C'est dans notre génération, dans notre temps, c'est dans ce temps que la rébellion des enfants est devenue tout à fait commune. C'est normal pour les gens, c'est commun, c'est normal. On peut plus, on s'attend pas à ce que les enfants soient obéissants. Il y a peu de familles dans lesquelles on s'attend à ce que les enfants soient obéissants. Il y a un esprit qui est dans ce monde, c'est l'esprit de Satan, qui fait que les enfants sont rebelles. Donc, c'est là ce qu'il dit, rebelles à leurs parents, ingrats. Un ingrat, c'est quelqu'un qui n'a pas de gratitude. Il sait pas gré quelqu'un pour une chose. C'est une expression française, avoir gré. On n'apprend presque plus cette expression, avoir gré. Mais ne pas avoir gré, c'est être ingrat. C'est-à-dire, on vous fait quelque chose, bon, ben, c'est normal, ben, il doit ça, mais il n'a qu'à faire ça. Non, on n'est pas reconnaissant. On n'a pas de la gratitude pour ceux qui nous font quelque chose, qui nous font. Non. C'est l'esprit qui est là dans ce monde. Irreligieux, bien que ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'être religieux, c'est d'être dans la foi en la parole de Dieu et dans la communion avec notre Dieu. La communion avec notre Sauveur Jésus-Christ. Mais il y a même l'irreligiosité. Parce que malheureusement, la religion, elle n'est pas véritablement la foi. La religion, c'est une forme quand même de respect, mais est-ce que la foi, c'est une assurance que ce que Dieu a dit, c'est vrai? Et que Dieu s'occupe, il veille sur sa parole. Ma foi, je crois ce que Dieu dit. Je crois que Dieu n'est pas un menteur. Mais religieux, bon, on peut avoir une forme religieuse, mais ça ne veut pas dire qu'on est vraiment dans la foi, hein. Mais même ça, on trouve même pas la religion. Irreligieux. C'est-à-dire que on a passé par-dessus bord la religion. Même les religions. Et ça se trouve dans ce temps. Insensible, c'est-à-dire sans sentiment naturel, sans sentiment, ben, c'est comme les ingrats, ils n'ont pas de sentiment de reconnaissance. Insensible, insensible à la douleur des gens, un futur insensible aussi à l'égard de tout ce que Dieu fait, du secours que Dieu nous accorde, de la vie que Dieu nous donne, insensible, déloyaux. La loyauté, c'est la fidélité envers une personne. Donc, la loyauté, c'était, comment s'il faut dire, surtout au Moyen Âge, disons peut-être, les chevaliers, ils étaient loyaux, ou alors c'était des fourbes, ils étaient méprisés. Mais la loyauté se trouvait, disons, c'était une qualité qu'on rencontrait. Mais on était fidèle à son serment. Même au prix de sa vie, rester fidèle à l'égard de la personne qu'on avait fait serment de servir, de soutenir et tout ça. Bien, il y a plus de, on est déloyaux, il y a plus de loyauté. Calomniateurs, eh bien, c'est ceux qui disent des mensonges, qui racontent des mensonges. Comment est-ce qu'il dit? Calomniateur, c'est tout simplement des accusations mensongères. Ça veut dire que c'est plus que de dire des mensonges. C'est de porter des fausses accusations sur quelqu'un. C'est de les porter, c'est d'attaquer la calomnie. Il y a un autre mot, je l'ai oublié maintenant, pour calomnie, qu'est-ce que c'est qui ressemble? Personne n'a l'idée. Qui ressemble, mais qui est plus faible, qui veut dire que on n'est pas accusateur, mais on est quand même menteur, on n'est pas fidèle pour dire la vérité. Inutile de chercher. Comment? Oui, mais quand même, diffamer, c'est quand même dire quelque chose qui n'est pas juste. Diffamer, c'est dire une fausseté. Dire une fausseté. C'est pas diffamateur, non, c'est un autre. Enfin, ça n'a pas d'importance. Mais je veux dire calomniateur, alors c'est quelqu'un qui sait que c'est un mensonge et qui accuse une personne d'avoir fait cela. Mais il y en a qui rapportent, c'est des rapporteurs, si vous voulez, et rapportent des choses ils ne savent même pas si ça existe ou pas. Se rendent pas compte. Ils disent des choses qui sont pas vraies. Et tout simplement, qui font du mal à la personne. Intempérant. Intempérant, donc, c'est pas seulement ceux qui boivent trop d'alcool, mais c'est dans le sens de l'intempérance de son caractère aussi, et pas seulement pour la boisson non plus, mais ça peut être aussi pour la nourriture, peut-être intempérant sur bien des domaines, manquer de tempérance, c'est un signe aussi des temps. Intempérant, cruel. Alors là, ça, c'est vraiment la cruauté dans tout ce qui se fait et dans les guerres et dans les vengeances qui se font actuellement, que l'on voit dans le monde. Vraiment, les gens sont cruels. Ça s'est manifesté pendant la dernière guerre. Avec les Allemands qui ont commencé à être cruels avec leurs prisonniers et tout ça, ça s'est manifesté déjà, ça a commencé à ce temps-là, mais depuis, ça n'a pas cessé. La cruauté s'est augmentée. Ce qui s'est fait du temps des nazis, dans les camps de concentration, mais maintenant, ça se fait un peu partout, ouvertement. Voyez? Donc la cruauté, elle ne fait qu'augmenter. Et puis, ennemis des gens de bien. Alors, c'est tout simplement parce que c'est l'adversaire qui ne supporte pas d'être dévoilé par le comportement des gens qui font les choses qui sont bien. Ils ne supportent pas ça. Ça l'accuse. Alors, ils sont ennemis, comme c'est écrit ici, des gens de bien. Ennemi, ça veut dire un ennemi, c'est quelqu'un qui attaque. C'est quelqu'un qui veut détruire. Un ennemi, c'est quelqu'un qu'on doit détruire. C'est un pays ennemi, on veut le détruire. Donc, il y a un esprit de guerre qui est là derrière. Traître. Donc, les traîtres, c'est les gens qui ont une bonne apparence, qui prennent des bons engagements, mais qui ne les tiennent pas. Ils sont traîtres dans ce sens-là, qu'ils ne tiennent pas ce qu'ils promettent. Emportés, c'est-à-dire qu'ils sont violents, emportés par la violence. Ils ne savent pas gérer leur vie, ils sont emportés comme cela, enflés d'orgueil. Enflé d'orgueil. C'est clair, on comprend très bien ce que ça montre, vraiment l'orgueil, comment l'orgueil. Les gens peuvent être tellement orgueilleux, c'est incroyable. Comment, vous savez, mais bon, La Fontaine, il a raconté l'histoire du bœuf et de la grenouille. Hein? C'était pour montrer l'orgueil de. C'est vrai. Des petites gens qui voulaient venir comme les grands, bah, ils voulaient imiter, alors ils se gonflaient, se gonflaient. Ça, c'est. Ils s'enflaient vraiment, s'enflaient d'orgueil. Et pour finir, bien, ils sautaient. Donc, ça existait déjà du temps de La Fontaine. Mais de nos temps, mais les gens sont. Ils ont pris tellement d'élastique qu'ils peuvent se gonfler. Sans sauter, semble-t-il. Mais de toute façon, un jour, ils vont sauter. C'est pas possible que. Vous voyez, c'est vrai parce que ça se trouve partout, des gens qui se gonflent comme ça, pleins d'orgueil. Enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Donc, on peut dire, c'est bien d'aimer les choses que Dieu nous donne. Mais il ne faut pas que les cadeaux nous soient plus appréciés que le donateur. Parce que si on peut avoir du plaisir, si on peut avoir du bonheur, ça vient de Dieu. Mais il ne faut pas oublier d'où est la source, d'où vient le cadeau, d'où vient le bonheur. Mais le bonheur, il vient de ce Dieu-là qui nous vient en aide et qui nous secourt. C'est lui. Il s'agit de garder, disons, la pensée bien claire et savoir à qui nous devons vraiment la reconnaissance. Donc, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. L'apparence de la piété. Les gens qui ont l'air pieux, ils ont une apparence. Mais qu'est-ce qui en fait la force? La force de la piété, c'est la communion personnelle intérieure que nous avons dans notre âme avec Dieu. Alors, il y a des gens qui cherchent à avoir l'apparence extérieure sans avoir l'âme en communion vraiment avec Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont pas accepté ce don de Jésus-Christ de telle manière qu'ils viennent habiter en eux par le Saint-Esprit. Parce qu'en somme, la vraie piété vient de cette habitation dans notre cœur de Dieu par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est présent Et qui fait que on est pieux dans ce sens que c'est naturellement qu'on fait ceci, qu'on fait cela. Mais il y en a qui copient l'extérieur, y compris les pratiques, ils disent « Ah, celui-là, il a fait comme ça, oui, c'est bien. C'est bien pour paraître, n'est-ce pas ?» Je ne vois que ça. Ne voyez pas qu'à l'intérieur de cette personne qui est vraiment pieuse, il y a une communion, une foi, un amour, vraiment, il y a cette, quelque chose, on ne peut pas expliquer autrement qu'est-ce que c'est, que la communion que nous avons avec Dieu, mais c'est dans notre âme, à l'intérieur. Ça peut se refléter, ça peut se manifester par le comportement de notre vie, dans nos paroles aussi, mais aussi dans nos actions. On dit, ah, ça c'est un homme pieux, vraiment, voyez, il est porté à faire le bien, porté à faire cela. Si c'est vrai, s'il a la communion, s'il n'a pas renié ce qui en fait la force, il ne suffit pas d'avoir l'apparence, il suffit d'avoir ce qui fait la force, ce qui fait la piété, ce qui fait vraiment que nous sommes une autre créature, que nous avons une communion avec notre Sauveur, avec notre Dieu. Donc, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il n'en est pas mieux qu'ils s'introduisent dans les maisons et qu'ils captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. La traduction littérale, il y a des notes qui nous montrent ce qu'il est écrit. Quand il est parmi eux, il n'en est parmi eux, parmi tous ces gens-là, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes. Mais ce n'est pas marqué littéralement de faibles femmes, c'est mis des femmelettes. C'est-à-dire que c'est des hommes, mais ce n'est pas des vrais hommes. C'est des hommes, ils ne sont pas vraiment dans leur position de croyant, ils ne sont pas dans une position de fermeté. C'est des femmelettes, ce n'est pas des femmes. Quand on parle de femmelettes, c'est péjoratif. C'est péjoratif. Parler d'une femme, ce n'est pas mauvais de parler d'une femme. Une femmelette. Et puis surtout quand c'est adressé à un homme, qu'un homme c'est une femmelette, c'est une injure. Hein? L'Écriture, elle n'a pas honte d'employer, il dit, il y a des gens, parmi tous ces gens-là, tous ces gens, ces caractères qui ont été nommés, il y en a qui s'introduisent dans les maisons, et qui captive des femmelettes chargées de péchés, agitées par les passions de toute espèce. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui voudraient croire, qui, c'est vrai, mais qui elles cherchent qu'une apparence, elles cherchent un peu de religion, un peu de religiosité. Cherchent un peu de religiosité, ils n'ont pas de foi véritable dans l'œuvre qui a été accomplie par le Seigneur à Golgotha, mais ils cherchent quand même une certaine foi, si vous voulez, mais quelque chose qui les agite, comme il est dit ici, c'est pas quelque chose qui les délivre, ils sont chargés de péché, donc ils n'ont pas expérimenté que dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a une délivrance du péché. C'est des personnes qui voudraient avoir la foi, mais qui ne l'ont pas, et qui sont comparées à des femmelettes parce que ils sont pas des êtres complètement dans la foi, tout simplement. Chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Alors, d'où viennent ces passions de toute espèce? Ça vient des mauvais esprits. sont agités par ces mauvais esprits qui n'arrivent jamais à être délivrés. Ils sont dangereux parce que justement, ils s'introduisent là, et ils sont dans les maisons, ils semblent que ce sont des gens pieux, mais qui ne sont pas dans la foi. Apprenons, verset 7, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Apprenons toujours, étant toujours après écouter, aller, ils vont aller dans toutes les réunions de partout, n'importe où, ils vont essayer de dire, peut-être là, je vais trouver mon bonheur. Et puis, non, ça va pas plus. Ils sont agités par des mauvais esprits et il les met en garde. C'est pour ça qu'il a dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Et juste après, il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmelettes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Maintenant, Jannès et Jambres, on connaît l'histoire, ça doit être dans les droits, je dois avoir noté, c'est peut-être au chapitre 7, sauf erreur. Oui, il me semble. Exode 7, oui. Où les questions de Jannès et de Jambres, c'est quand Moïse a commencé son ministère. Quand Dieu l'envoie vers Pharaon, d'abord il ne voulait pas y aller, et pour finir, Dieu l'a envoyé et l'a repris, et il a trouvé Aaron. Alors quand il vient avec Aaron devant le Pharaon pour dire, laisse aller mon peuple. Et Pharaon lui demande un signe, et il jette son bâton, comme Dieu l'avait dit, le bâton devient un serpent. Et voilà le Pharaon dit, oh, mais parmi nous, mais, ah, il y en a, on a, les nôtres, ils font la même chose, hein. C'est des imitateurs, c'était des magiciens, c'était des gens, ils ont lancé leur bâton, il est devenu aussi un serpent. Seulement, c'est que le serpent de Moïse, il a englouti. Il a englouti et il a repris et les autres avaient perdu leur bâton. Hein? Donc, c'était la puissance qui était dans les bâtons des magiciens, elle était maintenant dans le bâton de Moïse. Mais en attendant, c'était, vous voyez, des gens qui se prétendaient religieux et qui s'opposaient à quoi? C'était vraiment l'image du prince de ce monde qui, par sa religion, par ses religions, ils peuvent faire les mêmes choses, voyez, mais qui s'opposent. Moïse avait reçu ce signe comme signe pour dire au Pharaon, laisse aller mon peuple. Mais les autres disent, mais nous, on peut faire ça aussi. Et ils se sont ainsi opposés au ministère de Moïse. Mais il dit bien, mais, verset 9, ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Mais je vois que le temps a passé. Oui. C'est bien ça. Le temps a passé, nous allons nous arrêter ici. Et il parle que c'est vrai, ils l'ont fait, mais ici, il apporte une parole, et ça, c'est une parole pour le temps de la fin. Mais parce qu'il dit, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. La folie a été rendue manifeste en ce que le message que Moïse avait, qui disait, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, eh bien, cette parole, ce message de Dieu s'est accompli. il a dû laisser sortir, malgré les imitations, eh bien, la volonté de Dieu, le message de Dieu s'est accompli. Et c'est pour cela que, dans notre temps, pareillement, malgré toutes les imitations qu'il peut y avoir, des gens qui, quand même, nous, on peut faire la même chose. Mais ce qui doit sortir, c'est une épouse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire que cette épouse, elle sera vraiment entrée dans l'évangile que Jésus-Christ est venu nous apporter. Cet évangile du royaume qui sera prêché, il sera manifesté. Il doit être manifesté et le monde entier, eh bien, ils verront que les gens sortent des dénominations, ils sortent des credos, ils reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde entier verra qu'il y a une foi qui unit ceux qui croient en Jésus-Christ. Ça se fera, voyez, c'est une chose sûre. Pour ça que Jeannès et Jambres, ils peuvent faire la, ils peuvent imiter Moïse au son commencement, mais ils peuvent pas le suivre dans la suite. Je veux dire qu'ils peuvent, ils peuvent pas sortir avec lui, ils peuvent pas traverser la mer Rouge, ils vont se faire engloutir dans la mer Rouge. C'est comme ça qu'ils vont finir. Mais pour le moment, eh ben, ils rigolent, ils se moquent, ils disent, oh, mais qu'est-ce que c'est? Nous, on sait faire la même chose. Cependant, Dieu soit béni, le Seigneur se présentera une seule épouse, sans tache ni ride. Nous allons nous lever maintenant et prier le Seigneur qui nous vienne en aide pour que ces desseins de Dieu de rassemblement, de purification, de rassemblement autour du Seigneur Jésus-Christ puissent avoir lieu. C'est ainsi.